Europe 1.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à Catherine Ney, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou.
Bonjour Pierre de Villeneuve.
Un cran en plus dans la montée de l'escalade en Ukraine après les bombardements de ces dernières 48 heures dans l'est du pays. Vladimir Poutine gonfle le torse ce samedi en assistant à des grandes manœuvres militaires, lancement de missiles en tout genre. Joe Biden se dit publiquement convaincu que Poutine allait envahir le pays dans les prochains jours. Sur place, les séparatistes affrontent les loyalistes. Qu'est-ce qui nous attend en Ukraine? Nous poserons la question aux grandes voix. Nous ouvrirons ensuite, comme chaque semaine, nos carnets de campagne. À gauche, Anne Hidalgo, crucifiée par Ségolène Royal, qui appelle au vote utile Jean-Luc Mélenchon. Christiane Taubira, confrontée à la réalité des chiffres, ne parvient pas à obtenir ses parrainages. À droite, changement de cap toute pour Valérie Pécresse qui change de stratégie après le meeting raté de dimanche dernier. Hier soir, bas les masques et ciao les notes. Objectif remonté dans les sondages lorsqu'Éric Zemmour, lui, se rapproche du duo de tête. Et puis le Mali, c'est fini. Fin de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron l'a annoncé jeudi. Et la junte militaire au pouvoir qui demande de partir s'inédier, avançant que l'opération n'a pas été satisfaisante après 9 ans sur place. À quoi doit-on s'attendre après le départ des forces françaises? Les militaires sur place sont-ils prêts à affronter les djihadistes? Et qui sont ces mercenaires de Wagner? Explication en fin d'émission. Vous avez le programme. Les grandes voix, c'est parti. Depuis 48 heures, l'est de l'Ukraine connaît des bombardements. Alors soyons prudents, ce sont des bombardements sporadiques et pour l'heure, on les attribue plus à des forces séparatistes pro-russes en Ukraine plutôt qu'à l'armée de Vladimir Poutine. Pendant que les uns et les autres se rejettent les responsabilités, deux informations. La première, c'est que le président Poutine assiste aujourd'hui à des manœuvres militaires et lancements de missiles, un peu comme le fait régulièrement Kim Jong-un, il faut que ça tombe ce samedi. La seconde, c'est que Joe Biden dit désormais sans filtre que oui, Poutine va envahir l'Ukraine dans les prochains jours. Est-ce que Joe Biden a raison?
Écoutez, je cille comme nous tous, de samedi en samedi, sur est-ce que ça va être la guerre ou est-ce que ça ne sera pas la guerre. Ce matin, je prends ma responsabilité, j'opine, je vois plutôt se profiler la guerre, pour deux raisons. La première, vous savez, si on fait la guerre, c'est toujours parce qu'il y a un intérêt. Alors, donc, les deux raisons. Pourquoi Biden, tout d'un coup, a-t-il ce ton? D'abord parce que Biden, n'oublions pas son âge, c'est un ancien de la guerre froide. Mmh. C'est un Cold Warrior. Il a 50 ans de guerre froide dans les compteurs. Il a un bilan désastreux sur la politique intérieure aux États-Unis. Et il y a un consensus actuellement aux États-Unis sur l'idée qu'après tout, il ne faut pas laisser Poutine entrer en Ukraine. Donc, ça va vers la guerre. Ça, c'est côté américain. Côté Poutine...
On comprend presque que vous dites que ça l'arrange.
Ben ça pourrait, d'une certaine manière, ça serait un grand... Au moins, il aurait marqué un gros point. Oui. Dans 10 mois, il a des élections de mid-term qui s'annoncent catastrophiques, peut-être la perte des deux chambres et tout ça. Ça lui ferait... Pour Poutine, je crois que Poutine est arrivé à un point, il ne peut pas ressortir bredouille de cette affaire qui dure depuis des semaines. Il joue sa propre crédibilité. Il est quand même moins fort aujourd'hui qu'il y a 15 ans, Poutine, dans son propre pays. Il n'a rien obtenu depuis la Crimée dans son entreprise mondiale de grignotage et de retour à l'URSS. Donc, je pense qu'il lui faut un résultat. Donc, pourquoi pas par la guerre. Donc, voilà pourquoi ces deux raisons mises bout à bout, je pense qu'on peut aller vers la guerre.
Charles Villeneuve. C'est dur.
Non, c'est-à-dire qu'il fallait s'attendre à un regain de tension auquel, de toute façon, les Russes n'ont pas de réponse à leurs attentes, à leurs questions. Ils veulent faire bouger les Américains au moins un peu. Or, les Américains ne bougent absolument pas. Moi, je pense que le souci de Poutine, et je le comprends, c'est qu'il est dans la position, je l'avais dit samedi dernier, des Américains en 1962, quand les Soviétiques voulaient installer des missiles nucléaires à portée de Washington, c'est-à-dire à Cuba. Ils n'en voulaient pas. Les Américains ont fait une concession aussi, d'ailleurs, par rapport, je ne sais plus comment s'appelaient les missiles qu'ils devaient installer en Turquie, donc à portée de tir, évidemment, des Russes. Et il y a eu cet échange.
C'était des Pershing.
Les Pershing, tout à fait, exactement, bravo.
Les fameux Pershing, qui nous suivent partout.
Dans ce cadre-là, est-ce que les Européens peuvent reprendre l'initiative? Évidemment, non. Parce que si les Américains ne font pas un seul geste, ce ne sont pas les Européens qui vont les décider. Or, aussi bien les Allemands que les Français, que les Polonais, puisque là, il y a eu une première, d'ailleurs, c'est que les Polonais se sont rapprochés du tandem franco-allemand. Eh bien, ça, c'est une première, parce qu'ils sont quand même très pro-OTAN, les Polonais, et très pro-américains, sur tous les plans. Eh bien, on ne peut rien faire à partir du moment où nous sommes au commandement intégré de l'OTAN, aussi bien les Français, les Allemands, que les autres. Donc, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on glisse vers un conflit. C'est vrai. Et comme le disait Carrérou, c'est qu'il a besoin, compte tenu de son échec en politique intérieure, même la loi sur les minorités, il s'est fait retoquer au Congrès, etc., ce qui est un échec important sur le plan de la politique intérieure. Il ne faut pas oublier qu'on s'approche des mi-ternes, c'est-à-dire des élections à mi-mandat. Il a besoin de, en quelque sorte, s'adresser aux Américains, de les réveiller et d'avoir un résultat.
Et alors, nous avons une dépêche urgente de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dit que la Russie a entrepris de saper l'architecture de sécurité européenne et mène une tentative flagrante de réécrire les règles de l'ordre international. Elle ajoute qu'une attaque de l'Ukraine pourrait coûter à la Russie un avenir prospère. Voilà ce que dit Madame von der Leyen.
Oui, alors ça, c'est ce qu'elle dit. Mais Michel justement, au fond, on s'aperçoit que si Poutine reste sur ses positions, alors qu'il est menacé de sanctions absolument terribles, c'est qu'il se fiche des sanctions.
Il y a eu un ministre russe qui l'a dit dans ces termes-là, justement, il y a quelques jours.
Pas seulement l'ambassadeur de Russie.
C'est l'ambassadeur.
Donc, je veux dire, on a un Poutine qui est absolument résolu à ne pas accepter qu'il y ait des tirs possibles de l'OTAN à côté, à 500 km de chez lui. Bon, ça, il ne bougera pas de ça. Un, deux, on a des Américains, certes, alors je ne vais pas reprendre le raisonnement sur le président américain, mais on a des Américains qui ont été évacués. Par conséquent, on se dit déjà, les Américains, ils ne participeront pas à ça. Ils ne participeront pas à une campagne terrestre. Bon. Ils participeront uniquement aux sanctions. Donc ça veut dire que c'est l'Europe qui a apporté, oui, uniquement aux sanctions, un peu sans doute améliorées par la présence de troupes ou de fausses troupes. Mais je veux dire, ce qui est terrible, c'est que ça ne fait pas bouger et ça ne peut pas faire bouger Poutine. Et donc tout le monde s'engouffre dans un souterrain sans issue. Si Poutine dit qu'il ne bouge pas et si personne fait quelque chose pour finlandiser, mettons, comme on dit, l'Ukraine, c'est sûr qu'on va arriver à une sorte de conflit et que les deux territoires pro-russes à l'est de l'Ukraine serviront effectivement de prétexte et de terrain aux premières initiatives.
Catherine.
Oui, moi je crois qu'on vit aujourd'hui une période qui est peut-être encore plus dangereuse que du temps de la guerre froide. Parce qu'on a l'impression qu'avec « t'es pas capable de faire la guerre », il y a des deux côtés comme ça. Moi, je montre mes muscles et les Biden qui s'excitent en disant « la guerre est pour tout de suite ». Or, moi, je suis... Et c'est vrai que quand il y a comme ça deux grandes puissances qui s'invectivent en mots, est-ce que des mots, on passe aux armes, étant entendu que Biden, il n'ira pas faire la guerre en Ukraine Mais ce qui se passe, c'est tout à partir du Donbass. Je veux dire, tout l'étincelle, elle peut être là. Il y a des engrenages qui peuvent s'enchaîner. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'opinion allemande, maintenant, il y a une majorité de gens qui disent si l'Ukraine était attaquée par les Russes, il faudrait réagir. Ce qui n'est pas du tout les cas en France. Mais je veux dire, vous voyez, l'opinion est en train de se bloquer contre la Russie, alors que dans cette histoire, il faut bien arriver à une paix, et c'est ce que moi je suis sûre que c'est ce que veut Poutine, mais où chacun ne perd pas la face. Et c'est très, très, très difficile. Et là, on est dans une espèce de no man's land, on ne sait pas ce qui va se passer, et c'est très dangereux parce que souvent les guerres, et il y a eu des exemples, elles se déclenchent et elles partent comme ça
sur des incidents qui paraissent mineurs.
Voyez, là, en début de semaine, Vladimir Poutine a laissé son Parlement lui octroyer le droit de reconnaître l'indépendance des deux régions du Donetsk et du Lugansk qui sont dans le Donbass, les séparatistes russes. Et bien là, il n'a pas du tout utilisé de ce droit en disant non, ça serait contraire aux accords de Minsk. Donc il veut montrer aussi, il fait évidemment voter cette mesure par son Parlement, pour montrer qu'il veut qu'on vienne à la table des négociations pour négocier. Alors lui, évidemment, aussi, hein, pour négocier.
C'est ça.
Voilà, c'est
ça.
Ce qu'il veut. Alors lui, au fond, il est face à qui ? Il est face à Biden, dont il se dit, dans 2 ans, il ne sera plus là. Ça, c'est une évidence.
Et moi, je serai toujours là.
Ouais. Et, je veux dire, il est face à... le président Macron vient le voir. Très bien. Mais il dit, mais peut-être que dans 3 semaines, il ne sera plus là.
Ouais.
Et les Allemands viennent d'arriver. Ce sont encore des bleus. Ils ne connaissent absolument pas les rapports. Enfin, ils n'ont pas l'habitude de la politique étrangère. Et ils ont besoin de la Russie. Mais ils sont même dans les mains de la Russie pour le gaz. Donc, vous voyez, je veux dire, Poutine, il est quand même maître du jeu.
C'est le tsar Poutine.
Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a l'impression que l'Europe, face à ça, est absolument démunie. Ça va se passer sur nos territoires, enfin, en Europe en tout cas.
Et c'est l'Europe géographique.
L'OTAN,
oui, oui, oui.
Nous sommes dans l'OTAN. C'est difficile, on ne va pas en sortir comme ça maintenant.
Même si certains candidats à la présidentielle disent qu'il faut qu'on sorte du commandement intégré, comme si ça se faisait sur un claquement de doigts.
On peut dire, si on ne peut pas faire de concession à Poutine, les Américains n'en font pas, nous, on ne peut pas. Donc c'est vraiment... Et je trouve que c'est tout le problème de l'indépendance de l'Europe qui est quand même en cause. Est-ce qu'on va être sans arrêt entraîné par les Américains à des guerres qui sont guerre froide ou pas, ou en Russie ou en Chine.
Mais non, il y aura une guerre éclair. Il y aura, si on hypothèse.
Une blitzkrieg. Vous voulez qu'on parle de la blitzkrieg après la pub ? Parce qu'il faut que j'envoie une pub.
Non,
alors la pub est dans un instant. Gérard Carreau.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Retour des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carreau, à qui je donne la parole.
Oui, d'abord, j'ai constaté que le Conseil de sécurité des grandes voix, en l'occurrence, s'est prononcé, enfin, en tout cas, dans un, plus ou moins pour l'idée qu'on va vers plutôt la guerre. Alors, s'il y a la guerre, si nous avons, malheureusement, si nous avons un peu raison, s'il y a une guerre, ça ne sera pas effectivement la Troisième Guerre mondiale. A priori, ça sera plutôt une guerre, ce qu'on appelle, ce que les techniciens appellent une blitzkrieg, une guerre extrêmement rapide, quelques jours. Pourquoi ? Parce que il y aura d'abord, ça sera une guerre éclair parce qu'il n'y aura pas de combattants américains. Ça, Biden l'a dit 3 fois en quelques jours, pas de combattants américains. Et je vois pas beaucoup d'Européens, quelles que soient les déclarations, qui sont prêts à mourir pour Kiev dans les semaines qui viennent. Et alors, il y aura du conventionnel, et il se peut qu'en 3 jours ou en 5 jours, les troupes russes soient à Kiev. Moyennant quoi, on se mettra évidemment à discuter, le pape appellera à la discussion, et on se retrouvera dans une table de discussion.
Et à propos de table de discussion, il y a en ce moment le sommet de Munich, auquel finalement Vladimir Zelensky participe, et vous avez Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui dit, voilà, si le but du Kremlin est d'avoir moins d'OTAN à ses frontières, il n'obtiendra que plus d'OTAN.
Bah lui, voilà. Il défend sa boutique, lui, le secrétaire général de l'OTAN.
Il y a un autre problème.
Je vous livre l'information, ça vient d'arriver.
Il y a un autre problème qui me paraît
Par Télex,
aussi,
comme on disait.
Dans l'Europe actuelle, très importante, c'est si il y a une guerre en Ukraine, il y a une immigration énorme qui se prépare en Ukraine, puisqu'on prévoit environ 5 millions de personnes, dont 1 million de personnes iraient en Pologne. Alors, est-ce que l'Europe d'aujourd'hui peut résister à l'Afghanistan, l'Ukraine, la Biélorussie,
l'Afrique.
C'est vraiment un vrai problème.
Et oui.
Alors on dit, l'Europe dit, ah mais on est beaucoup mieux préparé qu'en 2015, c'est qu'en 2015, il y a beaucoup de réfugiés syriens, mais bon, il y a davantage de budget, c'est vrai, il y a quelques murs, mais avouez que prévoir 5 millions d'immigrés au moment où nous parlons aujourd'hui et parallèlement à la campagne française, c'est assez intéressant à souligner et quand même personne n'a intérêt à une désertification de l'Ukraine et à une révolte en Ukraine.
Bon. Oui.
Alors si ça reste dans le Donbass, s'ils annexent une partie de l'Ukraine, à la rigueur ça va, le reste, personne n'a intérêt quand même à un passage de l'Ukraine à Moscou.
Charles Villeneuve.
Il faut rappeler l'équation de base. La plupart des pays qui faisaient partie, des pays de l'Est qui faisaient partie de l'orbite soviétique, ne font aucune confiance à Poutine et craignent de toute façon un retour de l'Empire russe, c'est-à-dire de la domination russe.
Mmh.
Et c'est la raison pour laquelle ils se retournent vers l'OTAN. Ils veulent l'OTAN. Ils veulent intégrer l'OTAN. Or, bien évidemment, le Russe ne peut pas accepter ça, car il faut toujours rappeler qu'il y a un véritable traumatisme séculaire chez les Russes, c'est la crainte de l'invasion. Et ils l'ont subi par 4 fois dans l'histoire de manière importante, y compris des Français en 1812, y compris des Allemands en 1941, etc.
Et avant ça, les chevaliers teutoniques. Et
exactement, les chevaliers teutoniques, les Mongols, les Tartares.
N'en jetez plus.
Bon, mais là, on remonte à très loin.
Oui.
Bon. Et c'est ça qui anime, en réalité, les Russes et notamment les 4 hommes qui dirigent ce pays, parce qu'il y a très peu de gens qui, en réalité, constituent l'exécutif de Poutine. Mmh. Et notamment, dans ces gens, on retrouve quoi ? Eh bien, les gens des services secrets. C'est-à-dire ce qui est sa nature poète, oui. propre et sa formation. Mmh. C'est un officier supérieur du KGB. Il ne faut jamais l'oublier. Il appuie toujours là où ça fait mal, Poutine. Toujours. C'est sa stratégie.
Catherine Ney.
Alors là, la présidente de la Commission européenne menace, une fois de plus, Moscou de sanctions.
Oui.
Mais vendredi, Poutine a dit si les sanctions seront introduites, quoi qu'il arrive, il va y avoir des sanctions, qu'il y ait une raison ou pas, ils en trouveront une car leur but est de freiner le développement de la Russie. Or, les sanctions de l'Europe contre au moment de la Crimée et des premiers ennuis sur l'Ukraine, ben, ça aboutit à quoi ? C'est que les Russes, ils ne sont pas restés les bras ballants et ils ont distribué, ils ont développé leur agriculture. Et aujourd'hui, en raison aussi du changement climatique, eh bien c'est le premier producteur de blé, beaucoup plus que l'Ukraine. Donc ils ont développé leur agriculture. Les pommes qu'ils importaient de France, eh bien maintenant, ils les produisent eux-mêmes. Et il y a tout un secteur agricole qui s'est développé et c'est au détriment de l'Europe.
Et Michel Cotta me faisait remarquer il y a quelques semaines, et on en a à peine parlé dans la presse française, très peu parlé. Il y a eu un accord extrêmement important entre la Chine et la Russie. Mais ça, c'est incroyable parce que les gens, ils ne s'intéressent pas. Alors évidemment, on a le nez sur la campagne électorale, mais la géopolitique, ça existe. Et quand on voit la Chine telle qu'elle est aujourd'hui et la Russie telle qu'elle est aujourd'hui s'allier dans un accord important, fondamental, on se dit qu'effectivement, les sanctions auront d'autant moins d'impact,
ça,
s'il y en a,
quand jette Poutine dans les bras de la Chine.
Voilà.
Et on n'a pas fait attention aussi que lundi, Lavrov a dit, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il était temps de négocier et de rétablir des règles en Europe en matière de sécurité, et de cyberattaque. Parce qu'on sait aujourd'hui que les Russes sont très très forts en cyberattaque, mais les Américains aussi. Donc, et ils ont infiltré pas mal de choses en Russie. Donc c'est une guerre invisible et celle-là très dangereuse, beaucoup plus pour les populations, parce qu'on peut faire sauter les logiciels de toutes les grandes entreprises, y compris d'État en Russie, y compris couper l'électricité dans des villes. Enfin, beaucoup nuire à la population, beaucoup plus même qu'une guerre armée. Et donc, que les Russes proposent ça, ça veut dire qu'ils sont quand même ouverts à la discussion et que Biden ne comprend pas. Et lui, il passe son temps à dire qu'il va y avoir l'invasion. Or, moi, je pense qu'il n'y aura pas d'invasion des Russes.
Il y a pire que Biden, je trouve qu'il y a Blinken, qui vraiment
Il est le porte-parole de Biden.
Il porte la parole très durement.
Le secrétaire d'État américain.
C'est le secrétaire d'État américain. Donc, je trouve que dans les propos sont très, très, très agressifs, beaucoup plus qu'il y a 15 jours.
Oui, mais la tonalité est la même. C'est la Maison Blanche qui parle.
On va dire qu'il
parle. Il est démocrate,
enfin,
vous savez, Michel.
La tonalité n'est pas la tonalité. Il est quand même beaucoup plus sévère du côté de Blinken, qui, en principe, est là quand même avec Lavrov pour essayer d'arranger les choses. Et moi, je trouve qu'un secrétaire d'État s'exprime comme ça, c'est quand même très, très, très
ennuyeux. C'est marrant ce que vous dites, en principe, pour arranger les choses. Mais encore une fois, après tout ce que vous avez dit, on n'a pas l'impression que Washington est là pour arranger les choses.
Mais non, mais justement, en principe, c'est pour ça que je suis d'accord.
C'est une vision très occidentaliste de dire pour arranger les choses.
Non, mais Gérard Carrérou vient de faire une remarque très importante, c'est qu'il y a une continuité de la politique démocrate qui a toujours été anti-russe. Toujours. Bon, mais cela étant, il y a...
Et les Russes attendent Trump avec impatience.
Et Charles,
il y a une dimension positive quand même à ce débat qui anime l'Europe par rapport aux Américains, par rapport aux Russes, par rapport aux Chinois, comme vous venez de le souligner, c'est que l'Europe en sort quand même plutôt unie à l'heure actuelle. On a vu que quel était le talon d'Achille de l'Europe ? C'était toujours les hésitations des sociaux-démocrates allemands. Toujours, jusqu'à présent. Or, le nouveau chancelier social-démocrate, Olaf Scholz, s'est aligné justement sur la France. Et c'est la première fois qu'il y a eu un point de vue commun, bien à Moscou qu'à Kiev.
C'est vrai qu'il a un discours plus CDU que SPD.
Et qu'à Varsovie.
C'est amusant.
Et c'est la première fois. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience d'une nécessité d'unité sur le plan de la défense de l'Europe. Même si cette défense dépend très largement, de toute façon, de la puissance américaine. Parce qu'il ne faut pas rêver. Le seul pays qui a une véritable puissance militaire, ce sont les États-Unis.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur le dossier ukrainien. Les grandes voix continuent. Et dans un instant, nos carnets de campagne, tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1 que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Et on vous en remercie. Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrère. Au place à nos carnets de campagne. Nous allons commencer par la gauche et cette sortie de Ségolène Royal qui appelle à voter Mélenchon, qu'elle estime le vote utile. Elle le fait parce qu'elle y croit, Michel Cotta, ou elle le fait pour le show ?
Oh, ce que croit Ségolène Royal, on aurait beaucoup de mal à la suivre parce que d'abord même quand même, elle était social-démocrate et elle soutient le candidat Mélenchon. Donc, quand on lit le programme économique, on s'aperçoit que vraiment, il n'a rien à voir avec la social-démocratie. Alors effectivement, elle avait demandé avant un poste de sénateur. Au Parti Socialiste.
Oui, elle a demandé beaucoup de choses.
On voit quand même qu'elle cherche son chemin. Bon, alors, ceci étant, est-ce que Mélenchon peut représenter un vote utile, quel que soit son programme ? Parce qu'au fond, les gens ne lisent pas tellement les programmes. Alors, son personnage, finalement, avait beaucoup pâti depuis 2 ans. Et puis finalement, il a retrouvé pendant la campagne une vraie présence. On se dit que si, par exemple, Fabien Roussel, le candidat du Parti Socialiste, du Parti communiste. Était avec lui, ça ferait déjà 11 plus 4. Hein. On pourrait faire environ.
11 plus 3,5.
Donc, je sais que ça dépend sur certains sondages. Il est à 4.
Même jusqu'à 4,5.
Jusqu'à 4,5. Bon, donc finalement, effectivement, comme le ticket d'entrée, si j'ose dire, au deuxième tour, est entre 15 et 16, eh bien, s'il y a un vote utile pour Mélenchon, moi, je n'y crois pas tout à fait, parce que quand même, il a établi des barrières avec les gens. Donc, s'il y a un vote utile pour Mélenchon, ça n'est pas impossible, après tout, qu'il prévoie ou qu'il se dise qu'il peut être au deuxième tour. Et ça, c'est ça que voulait dire quand même Ségolène Royal, encore que ce matin, sur Europe 1, elle a eu, je trouve...
Elle a arrondi
les choses, donc de sorte qu'on n'a pas compris... Oui, on n'a pas compris si elle soutenait vraiment...
Enfin, on ne sait pas si c'est du vin, d'ailleurs. Catherine Ney.
Ben oui, elle a mis de l'eau dans son vin parce qu'on lui a passé quand même, ses amis socialistes lui ont passé un savon. Quoi. Elle n'a pas été du tout soutenue.
C'est une information, ça veut dire qu'elle a encore des amis.
Ses ex-amis, son camp. Parce que, je veux dire, qu'elle choisit la radicalité et c'est contraire. Enfin, il y a toujours l'espoir chez les socialistes de reconstruire demain un grand parti social-démocrate, ce qu'elle était elle aussi, et que si on choisit la radicalité de Mélenchon, c'est quand même, quand on voit le programme... C'est autre chose. C'est du Chavez à tout est gratuit,
mais
la retraite
question,
à 60 ans.
Est-ce qu'elle a voulu jeter un pavé dans la mare en disant maintenant ça suffit, on n'a qu'à voter Mélenchon ou alors ce que c'est vraiment. Est-ce que c'est pour un coup de taser ? Est-ce que c'est pour aussi électrifier la gauche ?
C'est un coup de tête surtout.
Un coup de tête.
Je vais la défendre alors.
Oui,
parce que
moi aussi.
Je vais défendre ce qu'a dit effectivement Ségolène Royal. J'avais pensé ça à un moment donné, je m'étais trompé pour Taubira. Il y a un moment donné où le peuple de gauche, comme bon, peuple de droite, on peut dire le peuple de droite, il se désole de voir 3 candidats en se disant si on était les 3 ensemble, on pourrait gagner.
Bon, les gars du monde voulaient se donner la main.
Le peuple de gauche, il est encore mieux loti puisqu'il a 6 ou 7 candidats et que tous ensemble, ils arrivent à faire 25. Mais, ce que dit Ségolène, elle joue quelque chose qui est l'arithmétique. Elle oublie un peu la politique, elle fait l'arithmétique, ce que tu as dit. C'est-à-dire, elle dit, si on était, au lieu de s'engueuler, au lieu de se barrer la route les uns les autres, si on pouvait s'additionner, Mélenchon, n'oublions pas qu'il avait fait près de 20% à l'élection présidentielle de la dernière fois. Donc c'est ça qu'elle joue.
Oui, mais il ne s'agit pas de la défendre ou de pas la défendre.
C'est un peu ridicule parce qu'on additionne, des carottes et des pommes de terre et des navets. On additionne effectivement des islamo-gauchistes, de Mélenchon et les anciens staliniens qui sont derrière l'homme de la bonne bouffe. Parce qu'en fait, n'oublions jamais que l'homme de la bonne bouffe, il ne faut pas gratter beaucoup pour trouver les staliniens. Quand il dit par exemple que Zemmour, c'est une petite peste brune, on n'est pas loin des vieux propos staliniens dès qu'il s'agissait d'un adversaire. Enfin bon, toujours est-il que Ségolène, elle a lancé une bouteille à la mer. À mon avis, ça ne se fera pas, mais ça peut faire monter un peu Mélenchon.
Oui.
Il y a quand même un mouvement, il y a quand même une dynamique pour Mélenchon qu'on ne prévoyait pas.
Il y a une dynamique pour Mélenchon parce que c'est un acteur extraordinaire. Et quand il n'est pas, comme c'est quelqu'un de bipolaire, de temps en temps, on a peur parce qu'on ne sait pas pourquoi il va piquer une colère et on voit qu'il ne se maîtrise pas et il fait très peur. Mais lorsqu'il fait l'aimable et le gentil et que voilà, il sait parler au peuple. Et en plus, je l'ai vu, j'ai regardé l'émission de BFM avant-hier à Digne. Et là, il était. D'abord, il s'est mis. Il a plus des costumes Mao. Il s'est plus déguisé. Il se déguise plus en ouvrier, en contremaître d'usine. Là, maintenant, il met un costume bleu marine. Cravate rouge, chemise blanche, et voilà. Et il répond, et on lui demande des questions, mais vous vous dites, est-ce que c'est à un chef d'État qu'on demande qu'est-ce que vous ferez parce que les frigidaires sont obsolescents au bout de 6 ans. On leur demande même ça. Vous voyez, quoi. Et il répond.
Avec moi, ça sera 15 ans.
Mais il répond que le sien marche depuis 30 ans. Voilà. Bon, voilà. Mais je veux dire, ce qui fait très peur.
On se demande ce qu'il y a dedans.
Comment Oui. Donc, il sait très bien réussir. Mais là, quand on dit. La dernière fois, il a fait 19. Parce que les communistes le soutenaient. Les communistes le soutenaient par deux fois. Ils n'ont pas voulu présenter de candidat. Et grâce à ça, il a eu ses parrainages très vite. Et aujourd'hui, il rame, il ne les a pas. Parce qu'il n'a pas le soutien des parrainages communistes. Et pourquoi ils l'ont lâché? C'est qu'une fois qu'il avait leur soutien, il les traite après comme des moujiks. C'est comme la CGT qui était dans ses meetings avec des drapeaux. Pourquoi il lui parle plus? C'est qu'une fois qu'il a eu son groupe insoumis, mais il parlait des syndicats, il les rejetait, il ne voulait plus parler avec eux. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas, qui est formidable pour, comme ça, en discours, qui fait l'aimable et tout ça, de chic. Mais c'est un personnage dangereux parce que finalement, on voit que c'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un d'éruptif, c'est pas un bon camarade, mais c'est quelqu'un de très talentueux.
Oui. Charles Villeneuve. Non, mais, heureusement que non, j'ai défendu Ségolène Royal, alors non, le soutenir.
Pour rester sur ce registre, je reviendrai sur Ségolène. Mais c'est vrai que quand tu l'écoutes, tu as l'impression d'avoir Danton. Et quand tu examines ce qu'il dit, tu t'aperçois que c'est Robespierre. Bon. Et. Ségolène, elle, a dit tout haut aussi ce que tout le monde pense. Tout bas, par exemple, par rapport à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui devrait tirer les enseignements de sa campagne désastreuse. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas elle seulement qu'elle condamne, c'est le Parti Socialiste. Le PS sera en extrême difficulté pour les législatives si Anne Hidalgo, notamment, se maintient. Elle est quand même l'héroïne du Parti Socialiste dans ce premier tour de l'élection présidentielle. Et dans l'éventuelle reconstruction de la gauche, le Parti Socialiste, au moment des législatives, sera en très grande difficulté. Donc, ce qu'elle a dit notamment, elle a dit plusieurs choses, mais elle n'a pas dit tout ce qu'elle a dit n'était pas de toute façon faux.
Non, simplement, était-elle la meilleure pour le dire je n'en suis pas sûr.
Bon, c'était le mot de la fin, 10h38.
On est sûr de rien, finalement.
La fin, tout de suite, fin, parce que dans un instant, on parle de la droite, bien sûr, et de Valérie Pécresse.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec autour de moi Gérard Carrère, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. À droite, changement total pour Valérie Pécresse. À croire que quelques conseillers en communication politique sont passés par là. Fini le prompteur, fini le sourire figé, place au naturel et au discours improvisé. C'était le cas au Canet hier soir. Est-ce qu'on attendait ça de Valérie Pécresse et est-ce que ça va la faire remonter dans les sondages?
Mais en tout cas,
Charles Villeneuve,
elle est elle-même. Je ne pense pas qu'il y ait de conseillers qui soient intervenus. Elle est elle-même.
Bon, peut-être pour lui dire, on arrête les
non,
mise en scène.
Non.
C'était plutôt les conseillers qui avaient mis la mise en scène.
Parce que c'est une femme quand même qui a démontré ses qualités, notamment quand elle était ministre du budget et ministre de l'enseignement supérieur. Et dans les débats, notamment de la primaire de la droite aussi, où elle s'est tenue de manière assez remarquable sur le plan de la précision des arguments. Non, elle est redevenue elle-même parce qu'elle est dans son rayon d'action, dans les échanges de questions. Elle a commencé en Vendée, avant-hier, ou il y a 3 jours. Et c'est là, de toute façon, qu'elle a trouvé son rythme. Pour ceux qui l'ont regardée en Vendée, elle était vraiment au diapason de ce qu'elle est. C'est-à-dire dans les le jeu des questions-réponses, comme elle l'était au moment des débats de la primaire de la droite. Donc, voilà, simplement, elle est rentrée dans son créneau.
Je trouve quand même, pardon Michel, elle ne peut pas être un acteur ou une actrice dans les rôles de composition. Le rôle de composition, pour elle, c'est de défendre un certain nombre de thèmes qui sont d'ailleurs proches de ceux que défend Zemmour et qui sont proches de ceux que défendait dans la primaire de la droite Ciotti, Éric Ciotti. Elle s'est sentie, et on a dû lui expliquer, c'est très important, Ciotti a été au deuxième tour, a failli, il a fait 40%, c'est très important que tu ménages effectivement Ciotti et que tu intègres, il y a eu des discussions entre eux, que tu intègres un certain nombre des options. Et quand elle joue ça, quand elle joue à Madame Tapdur, qui est ferme sur l'immigration, qui ne laissera rien passer,
elle
etc.
Elle n'est pas dans son registre.
Elle n'est pas elle-même. Mmh. Et quand on n'est pas soi-même, on perd. Quand elle est elle-même, qu'elle fait un peu celle qui sait gouverner une région, etc. Mais alors, c'est ce qu'elle a fait hier soir. Oui. Elle devient bonne, elle devient, on dit ah bah elle est capable, elle parle un peu comme un Macron féminin, elle est capable de diriger, etc. Voilà.
Là, deux choses, pardon, deux choses. La première, c'est que quand même, moi je sais, si ça vous dérange pas, je peux parler, merci.
Oui, non,
donc la première chose, c'est que quand même, quelqu'un qui est capable, un dimanche, de faire un meeting où elle en a pris plein la figure, y compris de ses proches, et qui le vendredi soir, fait au Canet un meeting complètement différent, où elle est elle-même différente, je salue la performance. Parce qu'il faut en prendre autant, et il faut avoir de l'énergie, et en prendre vraiment pour supporter ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est vrai, moi je l'ai écoutée hier, c'est vrai qu'elle est bien meilleure, mais elle se rapproche beaucoup de Macron. Alors, c'est-à-dire que son risque, c'est où elle est trop, où elle est trop à droite avec Ciotti, elle le suit trop et elle n'est pas elle-même, où elle est trop, quelque part, une énarque qui prend tout en réalité, qui n'a pas d'idéologie, et dans ce cas-là, on se dit, après tout, Macron avait pensé à la prendre comme Premier ministre, donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est encore plus dur pour elle, mais moi je salue la performance.
Catherine.
Oui, non, mais que ce soit une femme résiliente, moi ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que Valérie Pécresse, elle est compétente. Quand on voit qu'on lui pose des questions, elle connaît les sujets. Et sûrement que c'est peut-être elle qui, face à Macron, le mettrait le plus en difficulté. Parce qu'elle connaît mieux certains sujets que lui. Mmh. Bon. Moi, je le crois.
Oui.
Mais c'est vrai que sur sa ligne, qu'on lui soit tombé dessus, parce qu'elle dit simplement le mot grand remplacement, pour si on lit le discours, elle prend au contraire.
Oui. Elle le met en perspective.
En le reprenant pour elle et pour dire que c'est pas
ça. C'est le faire exister quand même.
Oui, oui,
comment
c'est ce que je voulais dire.
C'est le faire exister quand même.
Bien sûr, bon. Exister quand même.
Moi, je. Oui, moi,
même
je.
Même si tu dis j'en veux surtout
oui,
pas.
Oui, 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 surtout pas, ça veut dire qu'il existe. Il est là.
Catherine, si tu reprends une expression de tes adversaires, tu légitimes l'expression.
Ah, mais ça, c'est connu de ne pas le reprendre.
Et les Français de papier.
Oui, mais quand tu dis de tes adversaires, l'adversaire, alors c'est Ciotti. Donc, je vais dire, parce que Ciotti, il adhère à ces questions-là. Donc, sa difficulté, c'est que si elle trouve. D'ailleurs, il y a un papier dans Le Monde qui dit que maintenant, on trouve que c'est le gêneur, Ciotti. Mais si, dans ses discours, maintenant, elle joue ce qu'elle est, c'est-à-dire une juppéiste, c'est-à-dire une chiracienne, c'est-à-dire un créneau où Chirac n'a jamais fait entre 18 et 20%. Enfin, ça ne l'a pas empêché d'être élu. Bon, elle, avec peut-être la nouveauté de son arrivée en politique, si elle fait moins, bien, c'est aussi difficile, c'est une ligne difficile à tenir pour elle et à l'emporter, à arriver au deuxième tour.
Mais son problème, c'est le premier tour, justement.
Et bien voilà.
Son problème, c'est le premier tour.
Et bien voilà. Oui, je suis d'accord avec toi.
C'est la position, surtout.
Tu viens d'illustrer, justement, ce qu'elle sait faire.
Oui.
C'est-à-dire gérer. Elle l'a démontré à la tête de l'Île-de-France. Et dès le départ, elle avait dit, moi, je suis là pour faire, pas seulement pour parler. et je suis là pour agir. C'était ça sa ligne de conduite.
La dame de fer à Fayère.
Oui, et c'est voilà. Ça, c'était oui. Ça sa ligne de... Oui. Et la grande différence, ce qu'elle voulait dire, c'est que la grande différence avec Macron, c'est qu'il parle plus qu'il n'agit. Moi, j'agis plus que je ne parle. Oui. Et c'était ça, son idée force.
Il y a eu des primaires à l'intérieur de la famille gaulliste, et il se trouve que celui qui est arrivé en premier est quelqu'un sur une ligne dont il faut quand même tenir compte. Éric, il y a des régions entières qui, si elles continuent à se différencier trop, voteront pas forcément pour elles. Hein,
c'est toute la difficulté de l'exercice.
C'est d'aller de Fillon à Juppé. C'est toute la difficulté de rassembler toutes ces forces-là.
Je voulais juste raconter une anecdote qui s'est passée après l'émission de France 2, le 20h22 de France 2. Alors, Valérie Pécresse est sortie. Elle a d'ailleurs fait une prestation tout à fait intéressante. Et puis, elle est sortie et elle est, comme d'habitude, recueillie par les journalistes de France 2 qui sont... Et alors, on lui demande ce qu'elle aime, si elle aime le cinéma. Elle dit, je suis une cinévore absolue. Oui. Alors, le journaliste lui dit, même maintenant... Oui. Elle dit, dans 2 mois, je me rattraperai. Ça, je dois dire, c'est assez drôle pour un... Dans 2 mois, je me rattraperai. C'est effectivement quelque chose qui dit la faute. C'est l'inconscient. L'inconscient a parlé.
Mais la droite, la droite notamment parlementaire, ne parvient pas à s'extraire du piège qu'a fabriqué Macron entre les progressistes libéraux regroupés autour de lui et les nationalistes souverainistes. Et c'est ça le piège dans lequel, au départ... À partir de son meeting, elle est tombée.
Pécresse, elle doit gagner le premier. Je le disais, je l'explique d'un mot. Elle doit gagner d'abord sa place au deuxième tour. Pour ça, elle doit rassurer la partie modérée de l'électorat de droite. Et elle, éventuellement, les thèmes Ciotti, les thèmes forts de Zemmour, il faut les gagner au deuxième tour pour gagner l'électorat éventuel de Zemmour et de Le Pen. Mais pour l'instant, elle a donné l'impression...
C'est le premier tour.
Elle a donné l'impression dans son meeting, c'est pour ça qu'il était raté, qu'elle mettait l'accent sur le deuxième tour avant le premier.
Voilà. 11h-10, les grandes voix sont là, et dans un instant, on parle du Malière. Restez avec nous.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Au Mali, fin de l'opération Barkhane. Emmanuel Macron l'a annoncé jeudi. Vous remarquerez que la junte militaire au pouvoir demande aux Français de partir s'inédier, avançant que l'opération n'a pas été satisfaisante, ce qui n'a évidemment pas du tout plu au président Macron qui s'est empressé de dire qu'il fallait 4 à 6 mois pour partir au minimum. Donc on a le départ de l'armée, le crachat au visage du pouvoir malien, parce qu'on peut appeler ça comme ça, et un avenir plus qu'incertain qui conduira vraisemblablement l'armée française, quoi. À revenir quand on va l'appeler à nouveau au secours dans quelques années, Charles Villeneuve ?
Non, il faut... Enfin, moi, je donne mon opinion profonde sur le retrait. De toute façon, le président de la République française n'avait pas d'autre choix que de se retirer. C'était dû à un double putsch, à l'hostilité. Il ne faut pas oublier qu'il y a un homme clé dans la junte militaire malienne. C'est le colonel Sadio Camara, qui est un homme formé à l'école de guerre russe. Je dirais presque... soviétique, kagébiste. C'est l'homme qui a fait appel aux 800-900 mercenaires de la fameuse Légion qui ne vont rien changer. Parce que il s'agit de savoir là où ils sont passés. De toute façon, ça n'est que viol, raquette,
décapitation.
La Légion Wagner, tu veux dire ?
C'est pas des bons petits diables.
Il faut savoir que notamment au Mozambique, on embarquait la plupart des cercueils des gens décapités, notamment d'ailleurs de la force Wagner, de la force russe, au milieu du fret, des marchandises, avec des projecteurs qui empêchaient de photographier. Bon, c'est ça aussi la Légion Wagner. Donc en faire une sorte d'armée absolument incroyable, etc., etc. Tout ça, ce sont des fantasmes pour l'instant. Simplement, la France se retire.
Oui.
C'est vrai, l'armée française se retire, mais elle ne va pas très loin. Elle s'installe à Niamey, au Niger, où il y a déjà toute la flotte aérienne qui intervenait, parce qu'il faut savoir que 80% des djihadistes qui ont été tués, notamment les chefs djihadistes, mais aussi tous les résultats, parce qu'il y a eu des résultats sur le plan tactique, l'ont été par voie aérienne, héliportée ou par les Mirage 2000, qui sont basés à Niamey.
Gérard Carrère.
Écoutez, la morale de cette histoire, je crois que c'est d'être resté 9 ans et d'avoir cherché à nous installer, à quadriller un territoire
c'est le défaut du
que
système.
Nous ne pouvions pas quadriller, même avec 5000 hommes. On ne pouvait pas quadriller, tu le sais Charles, cet immense territoire.
Donc, 8 fois la France.
Voilà. Oui, oui. Donc il fallait faire... Bien sûr, j'étais pour, et je pense que la plupart des Français étaient pour, l'opération qui évitait destruction du Mali au départ, mais il fallait partir au bout d'un an, un an et demi, il fallait rapatrier. On ne peut pas mettre, comme disent les Américains, de boots on the ground. Il ne faut pas mettre les soldats sur le terrain. Il faut continuer la guerre contre le djihadisme avec des avions, etc. Mais pas avec des soldats
de
sur le terrain qui sont au nid au bout de quelques années.
De toute façon, on voit bien que Bruxelles, avec naturellement Macron, demande une sorte de nouveau partenariat avec l'Afrique de l'Ouest, puisque celui-là, apparemment, ne marche pas. Bon, mais tout le problème, quand même, un partenariat avec l'Afrique de l'Ouest, oui, c'est très bien. Mais il y a beaucoup, beaucoup de putsch. C'est-à-dire qu'on fait des accords avec, comme l'a fait Hollande, des accords avec un gouvernement qui immédiatement change et deux fois de suite une junte le remplace. Et personne ne dit que d'autres pays africains soient à l'abri de ça.
Je ne sais plus qui a fait le décompte, mais effectivement, je crois qu'il y a plusieurs putsch par an.
Donc c'est très difficile. Un nouveau partenariat, c'est très difficile à partir du moment où l'instabilité est énorme en Afrique.
Catherine Ney.
Oui, d'ailleurs, on peut dire que le fils du président tchadien assassiné a fait un putsch parce qu'il est arrivé au pouvoir avec tout à fait le soutien de la France, d'ailleurs, alors que ce n'est pas du tout constitutionnel. Hein. C'est un putsch. Et ça, dans le Sahel, cette position de la France aussi a été mal reçue, il faut le dire. Bon. Et à partir du putsch qui s'est produit au Mali, le président...
Double putsch.
Et c'est vrai qu'on a entendu des propos très fermes de la ministre de la Défense française, de M. Le Drian, bon, tout ça. Et donc, c'était pas ça envenimait le rapport entre la France et le Mali. Mais après le deuxième coup d'État, le 24 mai 2021, l'annonce du président français de dire que Barkhane, en juin dernier, allait partir... Eh ben, c'est comme ça que Wagner est venu aussi.
Mais il y a eu une erreur technique. On a joué aussi les Touaregs au Mali. Il y a une haine entre le nord du Nord. Les Touaregs, on a ménagé les Touaregs.
Non, ce retrait se fait avec l'accord de 8 chefs d'État africains.
Absolument.
Invités à dîner un mercredi soir à l'Élysée. Et avec l'Union africaine, dans le cadre duquel le président Mohamed Bazoum du Niger et le Tchad aussi, auquel tu viens de faire allusion, Catherine, ont joué un grand rôle. Ça s'est fait avec le feu vert et la dextérité d'un certain nombre de chefs d'État africains. Il ne faut pas l'oublier, ça.
Merci.
Rappelons que François Hollande a dit que lui serait parti plus tôt.
Merci. Les grandes voix. Et d'ailleurs, je signale que vous pouvez lire Les mercenaires de Poutine, ce reportage sur les forces Wagner dans Paris Match, et un excellent documentaire sur France 5 à 21h demain, signé Alexandra Jousset et Xenia Bolchakova. Voilà, j'ai fini. Laurent Mariotte, bonjour.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Pourquoi y a-t-il autant de restaurants étoilés dans les Alpes ? Eh bien, restez avec nous, on a mené l'enquête. On va aussi passer les vinaigrettes à la Tourniquette ce samedi. Et puis la comédienne Barbara Schulz sera des nôtres. A tout de suite.
Bon appétit, Charles-Orient.